R22,
tout monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète?
Histoire, création, politique.
Alors, bonjour à toutes les cinq. Merci beaucoup d'être là. Je vais juste te dire quelques petits mots d'introduction peut-être pour... pas cadré, mais en tout cas donner un petit peu des idées sur de discussions, des pistes sur les questions qu'on s'est posées autour de cette table ronde, et puis on passera plus précisément peut-être aux présentations et à des questions un petit peu plus ciblées pour chacune d'entre vous, et voilà, à ouvrir en tout cas au débat. Donc l'idée de cette table ronde pour nous, c'était d'interroger donc les différentes manières de rendre visible la poésie écrite par des femmes et des personnes queer. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est que ça suppose aussi de réfléchir à ce que signifie justement le fait de rendre visible cette poésie, cette production-là. C'est-à-dire qu'il s'agit donc de désigner, de montrer ces poètes et ces poétesses, mais aussi peut-être de les rapprocher de leur lectorat, de les rendre accessibles. Et c'est à ça qu'on voulait réfléchir en termes de stratégie. Donc, c'est des très grandes questions qu'on interroge, vous l'aurez compris, j'imagine, tout au long du colloque. Et il nous a semblé qu'elle conduisait à réfléchir dans deux grandes directions. La première, c'est le fait qu'elle nous impose de penser toute une série de questions liées à la traduction. D'abord par le fait que la question de l'invisibilisation des femmes poètes, ce n'est pas du tout une exception française, on le sait très bien, et il se joue quelque chose d'un peu particulier autour des espaces de circulation transnationale, quoi, c'est-à-dire dans toutes les marges un petit peu des espaces nationaux, puisque ces espaces-là, c'est généralement des espaces dans lesquels les groupes minorisés, les textes des groupes minorisés circulent particulièrement bien. De manière générale. Et de fait, les femmes poètes circulent beaucoup en traduction, même si c'est de manière partielle ou très éparse, en revue, on le sait, on va en parler aussi. Mais en tout cas, voilà, les littératures peu légitimes, peu reconnues, ou qui ont du mal, en tout cas, à se faire reconnaître comme telles, sont rarement traduites d'un coup en entier, et c'est ça qui nous intéresse un petit peu. L'autre dimension de la question de traduction, c'est le fait que, évidemment, les questions de traduction, elles sont liées directement aux questions de genre, de la visibilité des questions de genre. Il s'agit parfois donc de questions ou de débats linguistiques ou traductologiques à proprement parler, on l'a entendu dans les interventions d'hier, mais la question du genre en traduction, du point de vue féministe en traduction, c'est aussi quelque chose qui est un objet de recherche et de réflexion qui est de plus en plus investi par des traductrices, des collectifs de recherche, des collectifs de traductrices aussi, quoi. Je pense du côté de la recherche à ce que fait par exemple Félicité, dans l'édition à ce que fait Hystérique et Associé par exemple, ou à des noms comme Emily Wilson dont on a parlé un petit peu ces dernières années autour de sa traduction d'Homère par exemple. Dernier point peut-être sur la traduction, c'est en tout cas ce qui peut être intéressant de réfléchir, c'est aussi toutes les questions qui sont liées à ce qui entoure la traduction elle-même. C'est-à-dire qu'on pourrait se contenter de réfléchir au fait que rendre visible, c'est importer et donc traduire, mais on sait très bien que ça suffit pas le plus souvent, puisqu'il y a toute une question de contextualisation des textes qu'on importe. Qu'est-ce que ça fait, en fait, quand un texte est un petit peu arraché à son contexte, qu'il atterrit dans un nouveau contexte, et comment on fait pour restituer, en fait, ces questions-là dans un contexte où justement on sait que la traduction, et en particulier peut-être de la poésie, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais aussi des femmes poètes, très certainement, elle se fait dans des contextes où il y a peu de moyens, peu de temps, où ça suppose des connaissances et des compétences qui sont rares. Donc voilà, c'est des choses qui sont liées aux questions qu'on se posait. Et la deuxième grande direction qu'on voulait donner un petit peu à cette table ronde, c'est le fait de réfléchir aussi aux différentes donc stratégies, aux différentes voies possibles en fait de visibilisation des femmes poètes, de la poésie queer de manière générale, puisque ce sont des objets donc qui nous forcent à penser un petit peu des stratégies alternatives de visibilité. Les constats qu'on fait généralement, qu'on fait depuis longtemps sur l'absence de représentation des femmes et des personnes queer dans les régions les plus dominantes des espaces éditoriaux, invite à réfléchir à comment publier autrement, comment se rendre visible aussi matériellement autrement. sous quel format on publie, dans quels espaces, quel type de mise en visibilité sur le plan très matériel, en fait, on peut envisager pour ce type de production. Qu'est-ce que ça signifie concrètement aussi à un moment où le prisme du marché éditorial semble saturer complètement la réflexion sur ces questions-là, quoi. C'est-à-dire que cette question des stratégies de visibilité, de visibilisation, etc., je pense qu'il faut l'interroger aussi du point de vue du marché, en fait, puisque tout pousse à réfléchir en termes de positionnement éditorial. En tout cas, c'est comme ça que c'est souvent marketé, etc., y compris sur des textes qui se présentent comme féministes, en particulier ces toutes dernières années. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec ça, qu'est-ce qu'on investit comme circuit, comme média, comme espace d'édition, etc. Et peut-être une toute dernière piste, et puis on va rentrer plus précisément dans la table ronde, c'est en tout cas une des grandes directions, je pense, du colloque, et qui peut aussi être réfléchie dans la table ronde, c'est le fait de se demander un petit peu qu'est-ce qu'on fait de l'héritage des pensées féministes et des pensées queer dans ces espaces-là, quoi, en termes d'auto-organisation, en termes de réflexion sur nos propres visibilités, nos propres marginalités, etc. Comment on s'approprie tout ça, en fait, pour faire fonctionner ces circulations-là. Voilà, c'est un petit peu, il y a beaucoup de choses, mais c'est un peu les grandes directions auxquelles on avait réfléchi pour ce panel. Et je laisse la parole à Elvina qui va.
Vas-y. Merci beaucoup, Lucille. Du coup, pour aborder ces questions, on a avec nous deux traductrices, une éditrice et une programmatrice. Et j'excuse Isabella Cecaglini des éditions Ypsilon qui devait être avec nous. Il se trouve qu'elle est terrassée, enfin elle est malade et elle ne peut vraiment pas assister à la table ronde et donc elle s'excuse. Je vais juste dire deux mots pour présenter la raison pour laquelle on avait voulu l'inviter et on l'a invitée. Isabella Cecaglini a fondé les éditions Ypsilon en 2007. C'est une maison d'édition qui porte une attention particulière aux langues étrangères et qui défriche, qui est particulièrement passeuse d'œuvres méconnues en France. Il se trouve que son catalogue comprend de nombreuses femmes poètes comme Alejandra Pizarnik, qui est une poétesse argentine, mais aussi Unica Zürn, une poète allemande, la poète américaine Suzanne Ho, la poète italienne Amelia Rosselli, mais aussi Juna Barnes et puis bien d'autres, quoi. Et donc, ça nous intéressait particulièrement de l'inviter parce que, en tout cas, on est nombreuses à trouver que les éditions Ypsilon fonctionnent vraiment comme un corps conducteur. C'est une maison qui non seulement publie des personnes méconnues, des œuvres qui peinent à trouver leur public en France, mais surtout c'est une des publications qui relève d'un travail d'édition vraiment généreux. Les textes sont souvent accompagnés d'un appareil critique, de notes de traduction. Alejandra Pizarnik a été traduite, son œuvre poétique a été traduite presque intégralement par Ypsilon. Ypsilon a aussi fait traduire les correspondances, les journaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment une générosité qui nous parle beaucoup. Et donc avec nous, il y a Marie Fabre. Marie Fabre est maîtresse de conférences en études italiennes à Lyon. Elle est spécialiste de traduction et de poésie et c'est elle qui a traduit et postfacé pour les éditions Ypsilon justement plusieurs recueils d'Amelia Rosselli et qui a contribué à faire redécouvrir sa langue qu'elle dit elle-même casse-cou. Voilà, donc on est très heureuse de t'avoir avec nous, Marie. Avec nous aussi, il y a Charlotte Blanchard. Charlotte Blanchard est professeure agrégée d'anglais et traductrice. Elle a soutenu sa thèse intitulée « Réception et traduction de la poésie d'Adrienne Rich en France ». Elle l'a soutenue en 2019. Et donc, vous pouvez lire ces traductions des poèmes d'Adrienne Rich dans l'anthologie de Cambourakis parue en 2020. « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots ». Donc, les poèmes « 21 poèmes d'amour, le pouvoir » et « Pas ailleurs, mais ici », notamment. Voilà, donc ce sera l'occasion de discuter avec elle de la présence ambiguë d'Adrienne Rich en France. Et des conditions de sa réception. Voilà. Aussi parmi nous, il y a Aurélie Olivier. Aurélie Olivier est programmatrice. Elle a créé le festival Lillois Littérature, etc., qui met particulièrement l'accent sur la dimension vivante de la création et qui se donne le souci de conjurer la sous-représentation des autrices, notamment dans la médiatisation littéraire. Et ce festival Littérature, etc., avait justement mis à l'honneur les éditions Upsilon lors de sa dernière édition, si je ne me trompe, donc la dernière édition qui s'intitulait Littérature, conflit, etc. Aurélie Olivier s'occupe également des Parleuses, qui est un espace de propagation du matrimoine littéraire, et elle dirige un travail collectif intitulé Lettres à une jeune poétesse, qui va paraître prochainement. Et enfin, Élodie Petit est aussi avec nous. Élodie Petit est poète et avec Marguerin Lelouvier, elle a fondé, il me semble, il y a une dizaine d'années, les Éditions Douteuses, afin de publier une poésie plutôt marginale. Marguerin Lelouvier et Élodie Petit fabriquent des textes qui circulent dans des petits formats, des fanzines, et font beaucoup de lectures et de performances. Élodie Petit s'occupe aussi du festival Canette, il me semble. Et pour fêter les 10 ans des éditions douteuses, il y a un ouvrage qui est paru, une anthologie douteuse qui est parue donc en mars dernier, qui rassemble les poèmes d'Élodie Petit et les essais de Marguerin Lelouvier. Une vraiment formidable anthologie. Voilà. Et donc, bienvenue à toutes. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou corriger quelque chose, n'hésitez pas. Ou on peut rentrer dans la table ronde, enfin dans les questions tout de suite, mais voilà, interrompez-moi si nécessaire.
Merci.
Ça va ?
Non, tout va bien, merci beaucoup. Et pour les textes de Marguerin, c'est également de la poésie. Et pour en ce qui concerne Canette, c'est quelque chose qu'on organise de manière, de temps en temps avec Claire Finch. Voilà.
Et merci pour l'invitation. Bravo. Oui. Ah, c'est un plaisir. On aura l'occasion de reparler de Canette tout à l'heure. On va commencer par un premier moment sur les questions de traduction. En particulier avec Marie Fabre et Charlotte Blanchard. Et donc Marie, qui a traduit la poétesse Amélia Rosselli, ce qu'on voulait te demander, c'est un peu la manière dont tu avais envisagé tes parties prises de traduction, dans tes traductions d'Amélia Rosselli. Je pense au fait que le linguiste Antoine Berman avait mis en avant le fait que les traductions françaises avaient des tendances déformantes et que souvent les traductions françaises ennoblissaient les langues d'origine. Et j'ai l'impression que toi, dans ton travail de traduction, tu as vraiment veillé à ne pas ennoblir, mais à respecter en fait, le côté un peu explosif et déstabilisant de l'écriture d'Amélia Rosselli. Donc voilà, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de tes parties prises de traduction sur il me semble que c'est trois recueils d'Amélia Rosselli que tu as traduit, c'est ça ?
En fait, j'en ai traduit deux, et le troisième, c'est les écrits français de Rosselli, et donc je l'ai édité, mais je ne l'ai pas traduit, vu que c'était des écrits directement français. Rosselli a écrit dans trois langues, en français, en anglais, en italien. Je suis très contente. Alors, je comptais beaucoup sur la présence d'Isabelle, là, du coup, je me sens un peu esselée, mais comme ça, je représente aussi un bout d'Ypsilon. Je suis très contente parce qu'il y a Francesca ici et aussi Lucille qui connaissent Rosselli et la poésie de Rosselli, et c'est hyper rare, en fait, de pouvoir aussi parler devant des gens qui connaissent un petit peu cette poésie. Du côté des options de traduction, du coup, on rentre tout de suite dans des choses très, ça, c'est Variations de guerre, là, que tu es en train de montrer. Donc, c'est le premier, et c'est aussi le premier gros recueil de Rosselli. Il y en a un deuxième qui est La Libellule, qui est un texte que, par ailleurs, je trouve particulièrement important sur des questions féministes, en fait. Pour moi, c'est, de mon point de vue, un grand texte poétique. Féministe aussi, je ne sais pas, on pourrait peut-être en reparler, mais voilà. Sur les questions de traduction, oui, alors là-dessus, en plus, on s'est assez bien entendu avec Isabelle, avec l'éditrice qui avait été élève de Méchonique, et En tout cas, moi, du côté de mon parti pris de traduction, la langue d'Amelia Rosselli, c'est une langue très, en italien aussi, très, très déstabilisante. Une langue de, ce serait poussé de dire de semi-étrangère, mais en tout cas qui a une étrangeté très nette en italien aussi. Hein. Amelia Rosselli était, disons que l'italien était sa langue paternelle, mais sa langue maternelle était l'anglais, elle parlait anglais en famille, et elle est née en exil en France, elle a passé toutes les premières années de sa vie en France. Elle est revenue finalement, elle est venue vivre en Italie quand c'était déjà une jeune fille. Son italien se ressent des multiples influences de ses autres langues. Donc, c'est une langue profondément mixte, mélangée, avec un grand travail sur la langue, sur la grammaire, sur le rythme, sur la syntaxe, mais aussi avec plein de déformations lexicales, parfois des formes de fautes ou d'erreurs intentionnelles. Et donc, c'est sûr qu'un des enjeux de la traduction, c'était vraiment de ne pas lisser cette langue en français et de pouvoir transmettre son potentiel explosif, comme tu disais, Elvina, son potentiel de déstabilisation. Et donc, avec parfois, du coup, l'enjeu de recréer aussi dans la langue française une certaine recherche, une recherche d'archaïsme, une recherche du côté de tournures fautives intéressantes, une recherche sonore, une recherche rythmique, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, si, merci beaucoup. J'ai repris les mots de ta postface à variation de guerre, hein, dont tu décris très bien les parties pris que t'as eues. Et donc voilà, je me demandais aussi si c'était un choix conjoint avec Isabella Chegaglini de d'ajouter des notes de traduction un peu systématiquement, ou enfin en tout cas des post-faces quand tu traduis un livre d'Amelia Rosselli. Comment s'était fait ce choix là d'ajouter des éléments critiques en fait autour du texte?
Honnêtement, je sais plus trop qui a proposé ça. Je pense que moi j'étais très contente de le faire. Enfin, c'est une poète qui était quasiment inconnue en France. Il y avait eu des choses traduites par Jean-Charles Véliante, mais jamais ses recueils principaux. Je pense qu'un texte d'accompagnement et dans ce cas-là peut être aussi un peu une main supplémentaire tendue voilà, à la lectrice, au lecteur qui va tomber sur ce texte. En plus, c'est une poésie. Bon, alors moi, j'aime pas trop hein, dire que c'est une poésie obscure ou difficile parce que je la vois pas comme ça, mais en tout cas, elle est réputée difficile. Donc, c'était peut-être aussi une manière de pouvoir voilà, aider quelqu'un qui aborderait cette œuvre à entrer dedans. Isabelle, en tant qu'éditrice, est de toute façon quelqu'un qui a un souci hein, de ce côté-là, de soigner des éditions, parfois avec des appareils même assez conséquents. J'ai pas mal travaillé aussi avec elle sur le volume. Alors là, on sort de Rosselli, mais un volume de Sandro Penn, de Croix et Délices, hein, qu'elle a republié il y a 2 ans. Et où voilà, il y a un travail d'appareil critique assez conséquent. Et donc je pense que c'est aussi sa volonté. Un truc qui est marrant, en tout cas aussi dans sa collection italienne, c'est qu'il y a des liens entre les auteurs. Il y a des liens entre Pasolini, Penn, Rosselli, qui étaient tous amis en fait. Et donc il y a aussi dans son travail d'éditrice, ça c'est très intéressant, une mise en réseau de ses textes qui passe à travers les paratextes. Pareil, hein, dans le dernier Penn, il y a une introduction de Natalia Ginzburg. Elle a publié aussi Les Petites Vertus de Natalia Ginzburg, republiée il n'y a pas très longtemps. Là, je parle plutôt du travail d'éditrice d'Isabella et je veux pas parler à sa place non plus. Mais en tout cas, il y a vraiment ce souci et le paratexte fait partie de ces manières possibles de mettre aussi en réseau les autrices, les auteurs entre eux, des autrices, des auteurs justement plus ou moins intégrés dans le canon. Hein. On connaît, voilà, tout le monde connaît le nom de Pasolini. Par contre, très peu connaissent Rosselli. Et pourtant, Pasolini pensait que Rosselli était la plus grande, lui disait le plus grand poète du XXe siècle. Voilà.
Moi, j'avais une question un petit peu dans le prolongement de ce que tu dis là. Peut-être que toi, Marie, t'en as, enfin, peut-être, je pense plusieurs à en avoir l'expérience, mais j'y pensais, c'est vrai, à partir de l'italien, mais ça ne regarde pas que l'italien. Je me demandais en fait comment. Peut-être pour situer un petit peu aussi concrètement de quoi on parle, de comment ça se passe en fait quand on veut traduire ce type d'ouvrage, etc. Puisqu'en tout cas de l'extérieur, on se dit qu'il y a un cumul de difficultés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, on parle de poésie déjà et on sait que c'est pas non plus ce qui est le plus couru. J'imagine sur le marché éditorial, on parle de poésie des femmes et ici on parle aussi de langue rare. Ou semi-rare, en tout cas dans les classifications, voilà. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que ça, je ne sais pas si j'imagine que Charlotte, Aurélie, c'est des choses aussi auxquelles vous êtes confrontées de temps en temps. Je ne sais pas du tout si Élodie, la traduction, c'est une pratique que tu as ou que tu as eue voilà, sous ces aspects-là, mais en tout cas je me disais, voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on cumule, quand on ajoute ces caractéristiques-là, en fait.
Bah, en fait, je pense qu'il y a une difficulté déjà qui est, enfin, je pense que la réception de Rosselli elle-même, dans toute son importance et sa carrure poétique, elle a été complètement marginalisée, entravée. Elle a mis des années, je veux dire, même en Italie, le renouveau critique sur la poésie d'Amelia Rosselli date d'une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, c'est déjà dans son propre pays une poétesse qui a mis beaucoup de temps à être reconnue à la hauteur à laquelle elle pouvait être reconnue. Donc déjà, il y a cet enjeu-là. Ensuite, il y a l'enjeu, en effet, du passage de la traduction. Et là, pour moi, ça a été une histoire de... une chance, en fait, une histoire de rencontre, de rencontrer Isabelle. Là, c'était il y a une dizaine d'années, Ypsilon existait depuis pas si longtemps que ça, et de rencontrer une éditrice voilà, qui était à l'écoute à la fois de voix italiennes, de voix de poètes femmes. Et bon, voilà, on voit après toute la diversité des autrices qu'elle a publiées, qui sont en même temps souvent des grandes autrices modernes, modernistes. Donc, c'est aussi la reconstitution d'un canon, quoi, manquant. Enfin, on a beaucoup parlé de canon et de féminisation du canon là, dans les journées du colloque. Donc, on peut aussi revenir là-dessus. Le travail d'édition, il est complètement... il est essentiel à cette... le travail de traduction et d'édition sont essentiels à cette... à cette possibilité même d'avoir un canon de littérature de femmes qui tiennent debout. Et là-dessus, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond.
Non, mais en fait, je me disais peut-être pour anticiper sur une autre question que en fait, c'était aussi, dans ce que tu racontes, ça a l'air d'être effectivement lié à la rencontre avec Isabella. Mais j'imagine que c'est aussi des propositions qui viennent du coup des traductrices. Et je pense que en fait, c'est aussi quelque chose qui se passe assez souvent dans cet espace-là.
Moi, c'était ma proposition. Hein. Ouais, enfin, c'était ça. Ouais. Moi, j'avais lu Rosselli quand j'étais en Italie. Je faisais mes études en Italie. J'avais été complètement enthousiasmée par sa poésie. J'avais commencé à la traduire de mon côté. Et c'est vraiment moi qui, à ce moment-là, essayais de porter ce projet de traduction. À différents éditeurs français. Et finalement, et je ne pense pas que ce soit un hasard, mais c'est Isabelle là, qui quelque part m'a fait confiance aussi, parce que j'étais à l'époque une toute jeune, j'avais 26, 27 ans, c'était ma première grosse traduction, et c'était un projet assez ambitieux. Donc, c'était... Enfin, voilà, c'est elle qui m'a fait confiance. Je pense qu'il n'y a pas de hasard de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai que c'est moi qui portais le projet. Ouais.
On perçoit bien que la question de la réception d'une œuvre s'élabore vraiment comme une chaîne, quoi, où il y a différents éléments qui s'emboîtent, et de la proposition d'une traductrice à l'édition, à l'appareillage critique qui se constitue derrière. Il y a vraiment des étapes en fait à passer, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est vrai qu'Upsilon fait vraiment un travail de défrichage et de passage, quoi, de texte a priori pas déjà bienvenu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer les conditions pour qu'ils soient entendus, acceptés, etc. Du coup, pour en discuter aussi avec Charlotte Blanchard, qui est parmi nous, Charlotte, vous avez beaucoup travaillé sur la poétesse américaine Adrienne Rich, ce qui est intéressant parce qu'elle aussi, à sa manière, elle est canonique aux États-Unis, elle a été célébrée, son travail... Elle a eu des grands prix très prestigieux, et puis toute son œuvre poétique a fait l'objet a été publiée sous forme d'œuvre complète en 2016, il me semble, aux États-Unis. Alors qu'en France, justement, comme disait Lucille, les traductions sont très disséminées. Il y a eu des traductions sur des blogs, sur des revues. Il y a des revues en ligne ou en papier qui traduisent des poèmes, des morceaux de poèmes, etc. Et donc, vous, Charlotte, vous avez vraiment travaillé à partir de cette matière disséminée. Et vous, non seulement vous avez traduit des poèmes, mais vous travaillez aussi sur les pratiques de traduction de la poétesse Adrienne Rich. Et donc, voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous parler notamment de la manière dont ces différentes traductions qui existent d'Adrienne Rich ont été des traductions... des traductions que vous appelez pulsions, donc faites notamment par des gens qui ne sont pas professionnels. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, si vous êtes avec nous ?
Oui, très bien. Déjà, merci pour merci de me permettre de participer à cette table ronde, et bravo pour ce super colloque festival. Oui, alors Adrienne Rich, pour resituer un tout petit peu, elle est née en 1929 aux États-Unis, elle est morte en 2012, et en fait, elle a une œuvre de... Oui, presque 70 ans. Elle a commencé jeune élève moderniste, si on veut, faire une poésie qui rentrait vraiment dans les lois du canon de l'époque. Et au fur et à mesure des recueils, elle s'est complètement libérée jusqu'à devenir une voix du féminisme et aussi une voix du mouvement LGBT aux États-Unis. Et puis, à la fin de sa carrière et de sa vie, c'était... Une figure politique qui centralisait beaucoup de luttes en fait contre le patriarcat, le pouvoir en place, beaucoup de choses. Elle voulait englober beaucoup de choses. Donc en France, en fait, elle a eu des correspondances très soutenues assez tôt, dès la fin des années 70, avec notamment Christine Delphi. Une des premières traductions, alors c'est un essai à elle qui a été traduit, c'est « Contrainte à l'hétérosexualité », oui, je crois bien, en 81, dans le premier numéro de « Nouvelles questions féministes ». Donc, on est en plein, voilà. Alors là, c'est l'ouvrage tiré de cette traduction d'Emmanuel de Lesseps à l'époque, qui a été republié en 2010 chez Mama Mélisse. Donc, il y a eu des traductions, alors d'abord un essai, et puis dans les années 80, plus grand-chose. Et c'est au milieu des années 90, fin des années 90, qu'il y a eu plusieurs initiatives très isolées, de personnalités très différentes, et des traductions donc dans des revues littéraires. Il y a eu des blogs, il y a eu des anthologies aussi. Donc des traductions de peu de poèmes à la fois, des choses assez isolées, une traductrice ou un traducteur qui traduit un poème et puis passe à autre chose. Et c'est ça aussi qui est intéressant à voir, c'est le parcours des traducteurs et des traductrices. Beaucoup sont aussi auteurs ou autrices et ne vivent pas de la traduction, surtout littéraire en fait. Il y a aussi beaucoup d'enseignants, enseignantes, de chercheurs aussi. Et alors, pour parler de ma pratique personnelle, parce que je pense qu'elle est un peu bizarre et ça va être un peu intéressant. Moi, je suis venue à la traduction par la recherche, en fait, en faisant ma thèse donc de traductologie. J'ai voilà, mis les mains dans la matière vive et j'ai fini par traduire un petit peu dans ma thèse des poèmes qui ne sont pas dans « Je transporte ». Et donc, j'ai cette pratique un petit peu hybride et pour le coup, j'ai fait très peu de traductions. En fait, maintenant, je suis prof à temps plein et voilà, depuis ma soutenance et la publication de « Je transporte », je suis pas un moment dans ma vie, comme beaucoup de traducteurs et traductrices, où je traduis beaucoup. J'aimerais bien y revenir, mais en fait, c'est une activité qu'on fait souvent en complément, par passion, et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, par pulsion, une traduction pulsion, par vraiment une volonté, que j'ai ressentie aussi, hein, comme tous ceux qui lancent une première traduction, de faire passer une poésie qui nous parle, de faire passer une langue qu'on a trouvée... voilà, on y a trouvé quelque chose d'étonnant peut-être, pour faire un mauvais jeu de mots, pardon, et qu'on a envie d'essayer de confronter à la langue maternelle. Et c'est ça, en fait, tout de suite, cette pulsion qui vient un petit peu, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'est d'avoir envie d'essayer de faire le test du passage de la langue, passage à l'autre langue. Et alors après, pour revenir un petit peu sur les traductions de Rich, donc il y a eu au fil des années de plus en plus de travaux, d'anthologies, et jusqu'à donc la publication de Je transporte, qui arrivait en fait très peu de temps après la publication d'un recueil uniquement dédié à Adrienne Rich fin 2019. Qui était en préparation depuis des années, depuis avant le décès de la poétesse. Donc, il y a maintenant donc, un recueil de poésie d'Adrienne Rich, monographique, qui existe. Donc, en fait, tout ça s'est fait alors que moi, le point de départ de ma thèse, c'était pourquoi il n'y a pas de recueil ? Pourquoi il n'a pas encore été publié, ce recueil ? Est-ce que projet va aboutir un jour ou quels sont les précédents, donc ces traductions disséminées qui sont vraiment une amorce qu'on retrouve dans beaucoup de traductions en général, pas juste Adrienne Rich, hein, mais les publications de traductions dans des anthologies ou des revues littéraires, à l'image un petit peu des premières publications de poèmes en langue, dans la langue originale aussi, hein, ça passe beaucoup par les revues. Et ensuite, tout ça, si le cycle s'enclenche, peut aboutir à un recueil, donc dans la langue originale, comme en traduction aussi. C'est ce que j'ai compris donc, dans ma thèse. Donc, c'est le travail du coup, de personnes qui vont vraiment être passionnées, hein, parce que bon, c'est pas en poésie qu'on fait fortune, hein, pour les éditeurs comme les traducteurs, comme les auteurs. Et c'est vraiment des personnes passionnées, à l'image de l'équipe de la collection Sorcière chez Cambourakis qui fait un énorme travail de visibilisation pour le coup de ces autrices ici. Donc là, c'était de la poésie, mais c'est dans plein d'autres domaines aussi. Voilà, je crois que je suis un peu perdue dans ce foisonnement d'informations. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question.
Oui, merci beaucoup. Lucille, tu avais une question, je crois ?
Non, mais je voulais poser une question comme ça sur un petit peu le lien entre la recherche et la traduction, quoi, parce que je pense qu'il est un petit peu voilà, en commun au moins à Marie et Charlotte, et aussi parce que, mais bon, c'est encore une autre question, mais parce que ça pose aussi des questions matérielles très concrètes, quoi, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a une activité d'enseignement, un revenu qui permet de gérer autrement son rapport à la traduction, etc., j'imagine, mais en tout cas, ça génère, le fait qu'il y ait un lien comme ça très fort entre la recherche et la traduction, en particulier, je pense, sur des objets comme ça très spécifiques, ça crée un rapport particulier au texte qui fait que on est moins sous la contrainte, j'imagine, de tout un tas de rapports par rapport à quand on traduit uniquement, quand c'est notre activité principale, ou du moins qu'on essaie d'en faire une activité principale, etc. Quoi.
Peut-être la différence entre le travail de Marie Fabre et de Charlotte Blanchard, c'est que Charlotte, vous avez retraduit certains poèmes qui avaient déjà été traduits, et donc le travail que vous avez mené, c'était aussi un travail d'actualisation en fait, et de rendre contemporain des textes. Et ça, ça pose la question de la manière dont une traduction, en fait, prépare une réception, prépare un type de lecture critique aussi. Et du coup, voilà, je crois que vous avez un peu mis ça en œuvre dans la traduction de certains poèmes.
Alors oui, j'ai retraduit quelques poèmes et en fait, ça fait aussi partie du cycle de traduction. Ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, il y avait dans plusieurs cas, deux personnes qui ont traduit le même poème mais sans être au courant du tout qu'une première traduction avait été faite avant. Donc l'idée d'avoir une première traduction, elle est toute relative puisque si plusieurs personnes traduisent de leur côté sans vraiment être au courant, en apportant une touche comme ça à l'édifice de la réception de cette autrice, par exemple, ça rend oui, le processus peut-être plus riche et un peu plus long. Alors, dans mon cas, j'ai aussi constaté que ces premières traductions, elles peuvent être vraiment faites par passion et notamment par des personnes qui ne sont pas forcément spécialistes d'une langue. Donc, ça peut donner des choses très intéressantes aussi. Et alors, moi, du coup, bah, je me suis mise dans mes bottes de prof d'anglais aussi et j'ai traduit en tant que bonne étudiante d'anglais qui est devenue enseignante. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de travailler pour la première fois pour Je Transporte avec une anglophone qui est aussi artiste poétesse et qui du coup était vraiment le dictionnaire et l'encyclopédie totale dont on a vraiment besoin quand on traduit. Pour être sûr d'avoir, alors on peut pas dire qu'on aura épuisé la polysémie des termes ou les connotations possibles d'une expression, mais d'être sûr de pas tomber, de pas passer à côté d'un sens d'un terme qui aura un enjeu dans ce vers-là. Et c'était vraiment génial de pouvoir tester des choses avec Megan. Qui est crédité à la fin du sur la couverture, Megan McNeely. Et pour moi, c'était un travail extrêmement riche, en fait, de pas être forcément dans mon coin, de chercheuse dans son coin aussi, mais de faire ce travail en collaboration. C'était vraiment très très enrichissant. Et ça fait aussi partie de ce processus de réception qui mène à la traduction par bribes, disséminées, et qui peut amener un recueil, ou en tout cas une anthologie, quelque chose de plus conséquent.
J'imagine que ça rend vivant un peu les textes aussi, quoi.
Tout à fait.
Elvina, je ne sais pas si tu voulais...
Alors, il y a une question dans le chat pour Marie Fabre. Je voulais demander comment avez-vous pratiqué ou abordé les difficultés linguistiques de Rosselli sans avoir le soutien des traductions précédentes, erreur volontaire, mélange des trois langues que parlait Rosselli.
Alors, déjà, c'est... C'est pas, il y avait quelques textes de Rosselli qui avaient été traduits par Jean-Charles Véliant. Il y en avait un qui était impromptu. Et Véliant avait aussi traduit, mais ça, je m'en suis rendu compte après ma première traduction, des bouts de La Libellule, du Vivant d'Amelia Rosselli, en parlant avec elle. Et j'ai pu, et c'est des traductions qui ne sont jamais sorties en volume, mais que j'ai pu en partie consulter en bibliothèque. Bon, toujours est-il que c'est vrai que je me suis lancée, au moins pour le premier recueil, en plus j'étais en Italie, donc je me suis lancée de manière complètement... Je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin, j'ai fait plein d'expérimentations. En plus, avec Rosselli, au-delà de la question des langues, il y a aussi une question qui m'a énormément occupée, c'est la question de la métrique, puisqu'elle a une métrique très particulière. Il y a vraiment une expérimentation du côté du vers chez Rosselli, et ça m'a vraiment pris la tête... au point que, je ne sais pas, je traduisais, ensuite je faisais des lectures avec un métronome, enfin, j'ai fait plein d'expérimentations dans mon coin en devenant un peu cinglée au bout d'un moment. Et quand j'écoutais Charlotte parler, là, je me disais, non, moi ça a été une expérience au début là, vraiment complètement solitaire, hyper angoissante, comme peut l'être aussi la traduction. Hein. et en même temps, je pense que j'avais besoin d'être seule dans mon coin parce que C'est marrant, moi j'ai du mal à envisager, j'ai fait d'autres traductions en collectif, mais j'ai du mal à envisager la traduction de poésie en collectif, je pense, parce que je crois que j'ai besoin de, voilà, de ce moment un peu d'autiste devant ma feuille à essayer plein de trucs et à en sortir une écriture. Et du coup, dans la traduction collective, qui est un exercice que par ailleurs j'adore, ce côté-là est moins évident parce qu'on est toujours dans du tiraillement, de la compromission. Il y a des choses qui circulent, en effet, c'est vivant, c'est hyper enrichissant par d'autres aspects, mais ouais, c'est vraiment autre chose. Et voilà. Et donc je sais pas comment répondre à la question de Francesca, parce que je sais pas exactement comment j'ai fait. Je suis allée lire beaucoup de choses. J'ai essayé de me nourrir de plein de couches différentes de français, d'aller creuser dans l'histoire de la langue française, parce que Rosselli va aussi puiser dans différentes couches historiques de la langue italienne. Et j'ai essayé de m'autoriser des distorsions linguistiques, de m'autoriser aussi des formes de littéralité par rapport au texte italien, mais aussi par rapport à ce qui passait de l'anglais dans l'italien, avec des effets comme ça de rebond entre les langues. Voilà, j'ai pas de réponse plus précise.
Merci beaucoup, Marie Fabre. Alors, merci encore à Marie Fabre et à Charlotte Blanchard pour leurs propos vraiment lumineux sur la traduction, puis sur pour votre travail de traduction en lui-même qui est vraiment passionnant. On va basculer sur un deuxième temps de discussion en parlant, en quittant un peu les questions de traduction à proprement parler et échanger un peu avec Aurélie Olivier et Elodie Petit, l'une est programmatrice, l'autre est éditrice. Et donc, pour commencer, Aurélie Olivier, on voulait vous demander, vous organisez ce festival qui s'appelle Littérature, etc., qui est un festival assez généraliste, même s'il y a un souci d'inclusivité, de diversité dans les formes, les écritures et les groupes qui sont invités, quoi. Mais vous vous occupez aussi du groupe des parleuses qui, pour le coup, lui s'intéresse spécifiquement à la propagation du patrimoine littéraire. Donc voilà, alors comment est-ce que vous menez ce double travail ces deux manières de vraiment répondre, en tout cas réparer vis-à-vis de la minorisation et de l'invisibilisation systématique des autrices, quoi.
Ouais, en fait, donc merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Donc, moi, je suis directrice d'une association qui s'appelle Littérature, etc., qui a été créée en 2013. Et longtemps, en fait, j'ai travaillé pour différentes institutions à l'endroit de la programmation, jusqu'à en 2019, en fait, pouvoir faire uniquement ce travail. Et en fait, le festival Littérature, etc., majoritairement, diffuse des littératures vivantes, contemporaines, et je me suis rendu compte, ayant une formation littéraire qui me manquait au niveau de ce que je savais de l'histoire de la littérature, un immense pan. En fait, moi, je suis plutôt arrivée à la littérature via la littérature contemporaine. Et plus on lit, plus on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Et on va dire que les Lacarde et Michard que j'avais croisés par le passé faisaient vraiment pas l'affaire. Et que, du coup, ça nécessitait de créer un nouveau projet qui prendra en compte les trous qui existaient dans la transmission. Je pense que pendant toutes mes études de lettres, enfin vraiment, je pense que je ne sais même pas si j'ai vraiment étudié d'autrice historique. Et d'où l'idée, en fait, de retraverser cette transmission en faisant quelque chose de vivant et qui fonctionnerait aussi en dehors de l'université via des ateliers, et donc de lecture par arpentage, des ateliers d'écriture qui permettraient d'embrasser ces textes qu'on connaissait plus, pas assez, qui étaient souvent réduits de différentes manières, minorisées. Et après avoir fait ce travail, donc ça se déroule les parleuses, c'est des séances qui durent à peu près 4 heures. À chaque fois, on investit un lieu différent. On est invité dans des lieux différents. Ça se passe majoritairement en Île-de-France, un petit peu dans les Hauts-de-France. Et puis là, on commence à être invité dans d'autres villes. En juin, on sera notamment à Genève. On sera à Bruxelles au mois de décembre aussi. Et donc, au-delà des gens qui participent aux ateliers, l'idée aussi, c'était pour réparer notamment ce problème de transmission, de garder des traces et d'enregistrer des textes inédits écrits par des autrices contemporaines qui partagent leur lecture de l'autrice. Donc, c'est aussi des transmissions qui sont éminemment subjectives, par rapport à ce que disaient les traductrices tout à l'heure, finalement tout est assez subjectif, mais c'est vraiment, il y a l'idée de combiner en fait l'histoire au présent.
Merci beaucoup. Depuis le début du colloque, on poursuit vraiment cette idée de la question de la continuité, de la possibilité d'hériter en fait de textes qui ne passent pas, qui sont oubliés, invisibilisés, etc. Et vraiment, le principe du matrimoine littéraire et cet atelier autour du matrimoine littéraire, c'est vraiment pour le coup un dispositif qui établit une continuité, quoi, et qui peut justement permettre à des lignées de se poursuivre. Mais il y a toute une partie de votre travail, Aurélie Olivier, qui se passe beaucoup aussi hors du livre, notamment avec le festival. Je crois que vous avez vraiment un soin pour cette question de la performance, de la lecture, de créer des espaces un peu de convivialité autour de la littérature. Et donc ça aussi, pour nous, ça relève aussi de stratégies alternatives pour conduire ou transmettre des voix. Et pour qu'elle soit accessible et qu'elle trouve une audience, un public. Et donc, c'est une question que je vais adresser à la fois à vous, Aurélie, et puis à Élodie Petit, puisque Élodie Petit, dans le cadre des éditions douteuses, organise aussi beaucoup de performances, de lectures, dans tout un tas de contextes et de situations. Et donc, voilà, comment est-ce que toutes les deux, vous envisagez la question de la performance ? Par rapport à celle de la visibilité, de l'accessibilité et du populaire aussi, quoi.
Ouais. L'évidence, c'est que la culture écrite, elle est clairement classiste. Je vais laisser peut-être Élodie poursuivre. Je sais pas ce que. Enfin, et donc du coup, réparer en étant attentive à ce qui peut se passer hors culture. C'est pas tant hors culture écrite que hors maison d'édition traditionnelle. Mm-hmm. Et parmi ces maisons d'édition, il y a aussi une variété de degrés de visibilisation qui sont super. Là, je vois par exemple Leslie Feinberg, c'est clair que publié aux éditions de l'Arche, à la NRF, chez Gallimard ou chez Hystérique et Associés, ça va être plus ou moins difficile d'avoir de la visibilité. Et donc, moi, mon travail, ça consiste à essayer de rééquilibrer au maximum les injustices de départ. Je te laisse poursuivre, Élodie.
Merci pour le relais, Aurélie. Moi aussi, je vous adresse mes remerciements et un grand bravo pour la programmation de ce festival qui se tient enfin. Oui, alors effectivement, je pense qu'en France, on n'a pas de culture orale de la poésie. C'est-à-dire qu'on va trouver ça vraiment dans des milieux alternatifs ou alors dans le milieu de la poésie contemporaine qui est quand même très restreint. Et c'est-à-dire que si on veut rencontrer la poésie, il faut vraiment s'y intéresser. Le rencontrer par hasard ou quelque chose comme ça, mais tout est fait à l'école pour que finalement on délaisse la poésie très vite parce qu'on ne se sent pas concerné, parce que c'est effectivement pas populaire, alors que outre-Atlantique, on va vraiment tomber facilement sur des lectures orales, sur des performances poétiques, et c'est un truc qu'on n'a pas ici malheureusement, mais qui peut-être est en train de se réparer à l'heure actuelle. Voilà, je me souviens plus vraiment de la question.
Justement, Élodie, si tu veux revenir un peu sur, sur cette question des performances qui ont lieu dans le cadre des éditions douteuses ou encore du... ça, c'est pas dans le cadre des éditions douteuses, mais du Festival Canette que vous organisez avec Claire de temps en temps dans le parc de la Villette. Voilà, quelle stratégie, toi, tu as particulièrement et comment tu comment t'aimes bien organiser les choses, en fait, dans des situations orales
Alors, j'en organise parfois, mais par contre, c'est vrai que je participe à pas mal de propositions, mais tout ça, c'est quand même... se situe dans un cadre alternatif, souvent militant ou féministe. Il m'arrive de performer également dans des... Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me semblait étrange quand j'ai commencé à être invitée dans des festivals de poésie. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, j'ai été soutenue par Jean-Marie Glaise, qui est une personne assez importante dans le paysage de la... poésie contemporaine française et qui s'occupe par exemple de la, entre autres, de la revue Gnoc. Voilà, je fais partie également du comité de rédaction de la revue Gnoc. Et donc, en fait, il me semblait étrange que les auteurs soient automatiquement invités pour lire leurs propres textes parce que je me disais des fois que c'était pas forcément le plus évident, le plus efficace, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment remis en question, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, en France, on est invité pour lire nos textes, nos propres textes, et je trouve ça étrange parfois et limité. Et je pense que des fois, dans des cadres qui sont moins institutionnels, donc, dans des cadres de festivals autogérés ou auto-organisés, on se permet plus de choses. Et donc, pour parler de Canette, par exemple, mais je crois que Claire est là aussi. En fait, à chaque fois, dans l'idée de Canette, c'est vraiment, de toute façon, dans l'idée des douteuses, dans l'idée de Canette, c'est vraiment venir combler des manques de représentation et donner la voix et la parole à des personnes qui écrivent, des personnes qui sont souvent... qui sont souvent issus de, ou toujours issus de minorités, et aussi qui expérimentent en fait une poésie ou alors une écriture contemporaine qu'on voit rarement. Et donc dans Canette par exemple, on organise des lectures, on invite des personnes et on fait à chaque fois. Notre idée c'est à chaque fois de devoir payer c'est les gens qu'on invite, par exemple. Et donc, avec Claire, on fait des petits formats de fanzines comme cela, qu'on publie sous le nom de Suck Campari Dyke. Donc, c'est vraiment tout petit, ça tient sur une feuille A4. Et c'est des textes inédits. Et on les vend 3 euros, des fois avec une canette de bière. Et après, comme ça, on peut... Enfin, voilà, en tous les cas, c'est des systèmes, en fait, autogérés. Et avec les douteuses, on est invité à lire nos textes, mais notre spécialité, ce n'est pas forcément d'organiser des événements. Voilà.
Pour pousser un peu dans ce sens-là, quoi, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même que c'est la dimension collective, quoi, de ce que tu dis, de ce que tu expliques, et qui, en fait, amène à l'auto-organisation. Enfin, il y a quelque chose, quand même, de l'ordre de se réapproprier certains espaces. Je ne sais pas si c'est coûte que coûte, ou ni exactement comment on fait. En tout cas, vous êtes la démonstration qu'il y a différentes manières de le faire, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Finalement, il y a un espace qu'on ne nous laisse pas investir ou qu'on n'arrive pas à investir ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas grave, finalement, on va s'en créer d'autres quoi, et se créer d'autres manières aussi.
Disons que c'est une pratique de la marge, quelque chose comme ça. C'est une pratique qui a une histoire parce que le fanzine, ça vient pas nulle part, c'est vraiment une manière, fanzine, c'est vraiment... créer son magazine de fans, donc ça veut dire créer un espace qu'on rêverait, qui existe, mais qui n'existe pas, mais en fait c'est pas grave, en fait on le fait, et on le fait avec les moyens du bord, et du coup ça répond à une urgence, mais aussi à une, à une liberté absolue dans le sens où ça ne répond à aucun système marchand direct. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est sous le manteau. Ça permet de ne pas être frustré en tant qu'auteur parce que ça permet de faire circuler ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on n'est pas... voilà, si je pense à Marguerin et moi, ça fait donc 10 ans qu'on fait des fanzines, 10 ans qu'on écrit et qu'on partage nos textes. Voilà, et qu'on n'est pas, on n'est pas là avec des manuscrits dans le tiroir, qu'on est vraiment, je sais pas, dans un truc aussi généreux. Moi, je pense que j'ai commencé à faire des fanzines pour faire des cadeaux, en fait, pour offrir. Et après, peut-être qu'on peut parler des limites aussi de ce circuit-là, dans le sens où c'est effectivement un circuit qui, où on vend des textes pas chers, où ça permet de garder une. De ne pas se lisser en tant que... je parle d'un travail d'écriture, en fait, qui pourrait rester brut et original, parce qu'il n'y a pas de concession, en fait, à faire quand on est tout seul à le faire. Mais par contre, ça veut dire aussi que c'est en dehors d'une trajectoire du livre ou d'un circuit, en fait, qui peut emmener ailleurs la parole. Voilà. Et je travaille aussi de temps en temps dans la librairie Les Mots à la Bouche, à Paris. Et voilà, j'ai pu, en devenant libraire, j'ai aussi eu accès à toute une circulation du livre qui est autre chose, mais en fait, où j'ai pu aussi découvrir des travaux très importants de diffuseurs, par exemple. Voilà, je pense à Ogo Diffusion, par exemple. Voilà, j'ai je vois tout un panel, en fait, d'éditrices féministes qui se mutualisent, qui se mettent ensemble et qui, je pense à Blast, je pense aux éditions du commun Juliette Rousseau, je pense aux Daronne, ou Hystérique et Associés. Enfin, il y a quand même vraiment quelque chose de très puissant qui est en train d'émerger.
Juste pour préciser, j'ai l'impression que quand on parle, dès lors qu'on parle des éditions douteuses, en fait, la question de la visibilité, en vrai, elle se retourne complètement, puisqu'en fait, le modèle des éditions douteuses, c'est à l'origine le refus de certaines lumières, quoi, le refus de circuler dans certains espaces, le fait de ne pas épargner certains espaces et pour se livrer vraiment très généreusement à d'autres espaces, quoi. Et donc, il y a un glissement là qui s'opère. Alors, peut-être que c'est pas, évidemment pas au bénéfice. C'est difficile de massifier son audience avec des fanzines. Mais voilà, ce modèle de la visibilité, il est quand même aussi un petit peu contesté par ce que fabriquent les éditions douteuses, quoi.
Bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même si on est passé du fanzine au livre, avec Marguerin, on s'est quand même accompagné de Rotolux Press, qui est aussi, ce sont des graphistes et éditeurs hors pair et qui sont aussi des amis, qui sont aussi des personnes avec qui on partage un point de vue politique ou intellectuel qui fait qu'on a vraiment réfléchi à comment on passe du fanzine au livre. Enfin, donc c'est vraiment une question qui est c'est comme une prolongation, en fait. Ouais.
Et j'allais dire, je ne sais plus comment j'allais formuler ma question, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que, sur le côté, les multiples facettes de cette question de la visibilité, quoi. C'est-à-dire que dans ce que toi, tu expliquais, Aurélie, par exemple, de ce que vous faites avec littérature, etc., il y a aussi la volonté de jouer un rôle d'intermédiaire, quoi, de faire une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire de visibiliser des choses qui ne remontent pas sans les dénaturer complètement, peut-être, en tout cas sans les arracher complètement à leur espace. Je pense au fait qu'en voyant la diapo où il y avait Feinberg lu par Adèle Tinselin, par exemple, c'est pas non plus complètement une, je sais pas comment dire, il n'y a pas une concurrence, je sais pas s'il y a une relation de concurrence, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une relation de relais. Comme tu le disais, quoi.
Même si pour le coup, nous, on s'inscrit absolument. Enfin, moi, je suis très inspirée par tout ce que disait Élodie sur la culture fais-le toi-même. Enfin, c'est vraiment, j'adore ça. Mais pour le coup, et ça m'a beaucoup nourrie. Mais l'association littérature, etc., pour le coup, négocie avec, je sais pas, une dizaine d'institutions et par exemple paye les peu importe l'artiste, en fait les tarifs sont les mêmes, tout le monde est payé, mais vraiment avec avec les tarifs en vigueur établis par, par le CNL.
Oui, donc il y a une forme de, d'intermédiaire, enfin de
c'est trouver ça.
Une
place. Ouais. Il y a une écoute énorme, en fait, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement créatif, hyper intéressant, que, ouais, mais c'est beaucoup plus institutionnel d'une certaine manière.
Oui, j'imagine que ça impose en tout cas de négocier, enfin de tenir un peu, que ça doit être un travail de négociation, quoi, de tenir un
ouais,
peu.
Ouais, et il y a aussi, du coup, à un moment donné, défendre auprès de gens qui peuvent être très très loin de cette culture-là, la nécessité de la visibilisation de cette culture-là. C'est, ouais, il y a un entre, enfin, en tout cas, on se trouve à un endroit de, d'entre-deux, ouais, c'est sûr.
Oui, sans déposséder cette culture peut-être majoritaire ou marginale de sa force, quoi.
Ouais, non, enfin, en tout cas, enfin, en tout cas, la critique, en tout cas, la critique de la vampirisation, enfin, jusqu'à maintenant, je l'ai jamais eue. Et enfin, après, je pense que s'il y a des poètes ou des auteurs qui nous écoutent, ils peuvent dire le contraire. Mais je pense que la plupart des artistes sont aussi extrêmement contents d'être bien payés.
Bien payé, oui, carrément. Il y a une question sur le Framapad de Claire Finch pour Élodie Petit. Élodie, est-ce que tu peux parler de l'anthologie des douteuses, donc une réflexion qui court sur 10 ans d'écriture queer underground qui sont réunies dans l'anthologie. Est-ce que la réception de cette écriture a changé depuis le début du projet des douteuses? Est-ce que les stratégies que vous employez pour éditer votre écriture ont été transformées?
Merci beaucoup, Claire, pour cette question. Non, les stratégies, elles vont pas changer. Elles n'ont pas changé. Enfin, c'est-à-dire que, comment dire, on est... Pardon, je réponds à la dernière question avant de répondre à l'autre, mais je répondrai à l'autre après. C'est-à-dire qu'avec Marguerite, on pense déjà... Marguerite vient de sortir un nouveau fanzine. Et, enfin, c'est quelque chose qui va se prolonger comme ça, évidemment. Et ensuite... sur la question de la réception, on est passé par tellement de stades avant de passer du fanzine au livre, parce qu'en fait, ça voulait dire d'un seul coup avoir des propos qui s'inscrivaient aussi dans ailleurs et qui n'étaient plus dans quelque chose de volatile, en fait, comme un fanzine. Enfin, et du coup, on a eu peur. Et finalement, c'est plutôt très bien reçu. Aussi parce qu'on est plutôt sur un registre peut-être de la provocation avec Marguerite, qu'on aime bien mettre les pieds dans le plat. Et, mais c'est oui, le fait est, alors qu'on tombe aussi quand même dans une espèce de paysage qui s'ouvre complètement à la poésie en ce moment. Donc, il y a vraiment un regain d'intérêt démentiel. Donc, on est très heureux d'avoir vendu presque déjà les 700 premiers exemplaires et que sont repartis à l'impression 1000 exemplaires à nouveau. Donc c'est plutôt un succès. Et enfin voilà. Ouais. Donc plutôt très bien reçu en fait avec un... Enfin oui, et aussi c'est marrant, et après j'ai souvent eu ça dans mon travail, mais c'est on se déplace dans plein d'endroits avec ce livre-là. Parce qu'il touche, les gens à plusieurs endroits, je pense. Et ça nous permet vraiment d'être visible dans des institutions d'art contemporain. On était au Centre Pompidou ce matin pour accompagner une œuvre de Julien Creuset. Mais on est également invité pour la Pride de Tours ou pour le festival Comme nous brûlons en juin. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a comme une circulation, et la préface de l'anthologie douteuse a été écrite par Anne Poli. Voilà, et c'est... je ne sais pas, je pense que ça dit aussi de là où on se situe, en fait, peut-être, dans une volonté un peu pop ou de partage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Claire.
Oui, ouais. Je pense que c'était très bien. Je vais voir s'il y a d'autres questions sur le Framapad.
Moi, j'en avais une autre rapidement, peut-être pour Aurélie, mais peut-être que ça n'a pas du tout de sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, ce que disait Elodie aussi sur le fait que, enfin, dans la première partie, on a parlé des traductions, enfin, en tout cas, de la question transnationale, etc., par le biais des traductions. Et ce que disait Élodie sur le fait que en France, on n'a pas cette pratique de la poésie lue, partagée, en tout cas oralisée, etc. Et plus, de manière plus générale, moi, je dirais qu'on n'a même pas cette pratique de la littérature, en fait, puisque au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc., il y a aussi quand même beaucoup de lectures, en fait, ça se fait beaucoup plus que ici. Et je me demandais si c'était une... un truc qui avait stimulé des choses autour de littérature, etc. Enfin, voilà, le type de partage, même aussi sur la question collective, quoi, le fait que les petits ateliers d'écriture, des choses comme ça, c'est des choses qui, en fait, en France, sont pas hyper... Enfin, sont très récents, quoi.
Bah, en fait, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à littérature, etc., donc je me déplaçais déjà pas mal en France, en fait. J'étais vraiment... Je regardais tout ce qui pouvait se faire en termes de littérature contemporaine. Et des fois, il y avait des gens dont j'aimais beaucoup les textes et qui se retrouvaient dans des cadres pour parler de leurs textes, pour lire leurs textes, où déjà, à l'époque, c'était moi la plus jeune dans le public. Et c'était vraiment très tendu, quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça où il y avait comme un décalage entre ce qui pouvait vraiment se dire dans les textes, qui pouvait être très subversif, et le côté, je ne sais pas, mais c'était... Enfin, de ce que je voyais, c'était un peu raide. Et puis, c'est comme si le cadre était parfois en désaccord avec ce qui pouvait être énoncé dans les textes.
Donc c'était moi, pas spécifiquement de la poésie, du coup.
Pardon ?
C'était pas spécifiquement de la poésie, du coup, ou si ?
Moi, j'ai une vision très, très large de la poésie, en fait. Enfin, okay. En fait, je crois que je n'aime que la poésie, mais du coup, ça concerne énormément de textes. C'est vraiment dès qu'il y a un travail sur la langue.
Ok.
Voilà. Et donc à l'époque, enfin voilà, c'était ça. Mon point de départ, en tout cas, c'était de créer une ambiance sympa pour diffuser les textes et quelque chose qui soit en accord et aussi au niveau du public. Je ne sais pas si vous savez, mais pour les manifestations littéraires, les dernières enquêtes du CNL indiquent que la moyenne d'âge des personnes qui assistent à des manifestations littéraires, c'est 63 ans. Donc, du coup, je pense que ça ressemblait au public... que je rencontrais en fait quand j'allais dans ces événements, et donc c'était ça le point de départ. Et aussi notamment le festival, à chaque fois il a un thème précis, et en fait à l'époque j'habitais à Lille et je me rendais bien compte qu'en fait si je communiquais sur juste les noms des auteurs qui m'intéressaient, ça allait pas du tout marcher. Donc d'où l'idée de mettre une sorte de, enfin dans la communication en fait, de travailler autrement, de parler directement du thème des textes plutôt que des noms d'auteurs, parce que je savais bien que ça marche, enfin en tout cas je pense que ça avait peu de chances de marcher. Peut-être que ça marcherait un peu plus maintenant grâce à la reconnaissance du festival, mais à l'époque c'était, enfin voilà, le premier festival en 2013 il s'appelait Littérature Love, etc., et clairement c'était la stratégie de départ pour attirer des gens à écouter des textes qui parlaient vraiment d'amour, mais si j'avais juste dit Noémie Lefebvre, je suis pas sûre qu'il y aurait eu autant de gens à venir écouter ces textes, par exemple.
Non, c'est vraiment passionnant ce que vous dites là, Aurélie, parce que ça montre comment des modes de présentation peuvent induire un accueil ou une accessibilité ou pas, quoi. Et effectivement, modifier un peu ces modes de présentation peuvent produire des nouveaux montages, des nouvelles rencontres et ouvrir à un public potentiel. Et c'est vraiment intéressant. Et j'ai peut-être une question, mais Lucille, je ne sais pas si tu en avais une aussi. C'était pour la question des archives. J'ai l'impression que Aurélie, dans votre travail avec les parleuses, vous avez beaucoup pensé à la question de l'archive, puisque des ateliers, des lectures, etc. deviennent des podcasts, et donc ça peut être entendu par d'autres. Et de la même façon, Élodie Petit, je me demandais si la question de l'archive, c'était important, étant donné que le fanzine, c'est un objet aussi fragile et qui se casse, enfin qui est fragile, quoi. Est-ce que l'anthologie douteuse venait aussi pour répondre à un besoin d'archiver, ou en tout cas de faire durer, de rendre certains écrits plus pérennes, quoi?
Ben, en tout cas, oui, l'archive, ben, je ne sais plus, en fait, je crois que c'est Joanna Russ dans How to Suppress Women's Writing qui dit, enfin, qui explique notamment, je crois que c'est elle, hein, qui explique pourquoi les féministes sont obligées de réchauffer, enfin, de réinventer l'eau chaude tous les 10 ans parce qu'il y a ce problème d'archives. Donc ça, c'était clairement à la base de... à la base de ma réflexion et pour avoir par ailleurs travaillé en tant que programmatrice au Centre Pompidou. Par exemple, là, on a affaire à une institution qui a toute une histoire de la poésie dont je parle par ailleurs dans une préface là, que j'ai écrite pour un livre qui va apparaître, qui s'appelle « Lettre à une jeune poétesse » qui va apparaître au mois d'août. Et c'est clair que qui a le temps de faire des archives et qui écrit l'histoire, en tout cas, c'est des questions de pouvoir et donc de visibilité qui étaient prises en compte dès le départ pour les parleuses, même si les archives sont modestes dans la mesure où c'est un enregistrement. Il n'y a pas de montage a posteriori, il n'y a pas de travail autre que l'enregistrement, la mise en ligne, mais ça veut dire, bon, ça, à un moment donné, comme l'histoire du féminisme a tendance à faire un pas en avant, trois pas en arrière, bon, bah, dans 10 ans, en fait, ce sera toujours en ligne et il y aura un accès à ça qui permet de savoir que ça a existé.
Et du coup, toi, Elodie, par rapport à la question de l'archive, est-ce qu'il y a une pensée de l'archive au niveau des éditions douteuses ?
Oui, complètement, bien sûr. Alors après, j'ai envie de dire, il y a deux volontés d'archives. Il y a une volonté de s'archiver parce qu'on est homosexuel, qu'on a un besoin aussi de... Enfin, que c'est une question qui est toujours, en fait, qui s'inscrit toujours dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer le travail de Marguerin, mon ami tendre et collègue douteuse parce qu'il a mis en place à Lyon récemment une bibliothèque avec Mémoire des sexualités. Je vais mettre un petit peut-être le lien de Mémoire des sexualités. Et donc il y a vraiment évidemment en fait cette volonté de d'exister complètement et de faire histoire. Voilà, c'est en fait Mémoire des sexualités. Voilà, donc il y a vraiment ce travail là qu'a Marguerin également d'archiver en fait dans ce nouveau lieu qui est hébergé donc au Grand Zéro, qui est un lieu alternatif à Lyon. Voilà, et donc évidemment, en fait, le fanzine, si on le conserve bien, il se conserve aussi bien qu'un livre. Enfin, finalement, il n'est pas. Je pense qu'il peut être aussi pérenne qu'un bouquin. Mais évidemment, c'est sûr qu'en existant comme tel, dans un objet livre, il est. Enfin, c'est aussi magnifique parce que c'est. Enfin, une somme comme ça, c'est évidemment directement la somme de 10 années. Enfin, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est devenu quelque chose de conséquent qui s'est aussi imposé à nous avec Marguerin. On était là, waouh, c'est aussi le constat d'un travail. Et c'est puissant. Ouais, voilà.
Je crois que Marie avait une question.
Non, c'était pas une question. C'est que j'étais un peu portée par l'enthousiasme en écoutant Aurélie. Parce que j'étais super d'accord à la fois sur la question de la poésie et sur le fait que la poésie est un domaine, à mon avis, beaucoup, beaucoup moins réduit que ce qu'on pense habituellement en termes de genre littéraire. Et je crois qu'Élodie était d'accord aussi, donc voilà. Et par ailleurs, j'avais envie de rebondir aussi sur ce qu'Aurélie disait sur les lectures de poésie, en fait. Et c'est marrant parce que dans l'intervention de Francesca sur Laura Vasquez, Laura Vasquez disait quelque chose comme ça aussi dans la conversation. C'est-à-dire, moi, je suis allée voir beaucoup, beaucoup de lectures de poésie plus jeune. Et c'est vrai que déjà, j'ai été toujours la plus jeune quasiment. Parfois, c'était complètement funèbre, quoi. Alors même que j'aime beaucoup la poésie, que je suis une lectrice de poésie, etc. Mais n'empêche que la manière dont se déroule le cadre, en fait, Aurélie, tu parlais du cadre, hein, mais je pense qu'il y a un cadre qui est complètement à repenser sur la question des lectures et qui est sans cesse repensé, sans cesse en train d'être repensé, avec des questions peut-être générationnelles aussi, mais pas seulement. Et, Et donc voilà, je ne sais pas, j'avais juste envie de réagir à ça, mais pour Rosselli, par exemple, moi j'étais extrêmement contente de le texte de la libellule, par exemple, qu'il a été repris à Lyon par des amis qui, à l'époque, faisaient quelque chose qui s'appelait le cinéma préhistorique, qui était des performances avec de la vidéo et de la musique improvisée. Et d'entendre le texte de Rosselli, cette traduction-là, justement sortir d'un cadre de présentation plus institutionnel, plus universitaire, pour arriver devant un public qui, finalement, pouvait l'écouter dans un cadre complètement différent. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait beaucoup de bien et que ça amenait, finalement, la poésie à des personnes qui justement, spontanément, à cause de notre héritage scolaire, pouvaient en avoir une vision quand même de quelque chose d'a priori difficile, inaccessible, etc. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu, que c'est un enjeu qui se joue à la fois à l'intérieur des institutions, parce qu'au final, tout le monde y passe à l'école, donc ça aussi, il faudrait que ça change à l'école. Et puis aussi en dehors des institutions, enfin c'est un travail global quoi de changement de ces cadres là.
Ça fait une belle ouverture pour enchaîner avec la lecture, enfin la soirée qui suit la table ronde. Je sais pas s'il reste des questions, mais j'ai pas l'impression.
Moi, je peux juste un petit mot pour donner un petit peu d'espoir. C'est qu'avec l'association littérature, etc., on intervient sur de la littérature, de la poésie contemporaine et du théâtre contemporain dans des collèges, notamment en Seine-et-Marne, et que ça, notamment via la lecture par arpentage, et que ça fonctionne super bien. Voilà.
Lucille, tu veux conclure ?
Je peux conclure très rapidement, mais surtout vous remercier pour cette table ronde. Il y aurait plein de choses à poursuivre encore, parce qu'il me semble qu'il y a plein de trucs. Enfin voilà, cette question de la multiplicité des espaces et des manières de rendre vivants les textes poétiques, etc. Il me semble qu'on pourrait l'exploiter de plein de manières, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Donc merci beaucoup pour cette table ronde. Elvina, je te laisse peut-être annoncer la soirée de tout à l'heure.
Je veux bien, si Claire ou Jofia, qui vous êtes occupée de la soirée de ce soir, s'il y en a une des deux qui veut bien présenter.
Oui, hi.